Bonsoir. Rien de mieux pour redémarrer une année que de bonnes résolutions et un vœu qui ne doit pas rester pieux. Faisons grossir nos entreprises. Elles sont trop petites en France, pas à l'échelle du monde compte tenu d'un certain nombre de handicaps. Et des entreprises plus grosses, plus grandes, ce serait davantage d'investissements, de profits, d'emplois, d'international. C'est peut-être le chaînon manquant à l'économie, à la politique économique française. Plus grand, plus fort. Voilà, c'est l'opération que l'on lance aujourd'hui sur BFM Business. Alors, prêts à relever le défi, voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Hashtag PG, PF, plus grand, plus fort. Une opération dont on est très fier ici à BFM Business, qui a été lancée ce matin par Stéphane Soumier dans Good Morning Business, qui pilote donc cette opération pour faire grossir nos entreprises. On va essayer de savoir pourquoi elles ne sont pas assez grosses et quelles peuvent être les bonnes recettes. C'est une opération qui va durer presque 4 mois sur BFM Business et j'espère que vous la suivrez avec beaucoup d'intérêt. Nos invités, il y a 2 ETI et 3 partenaires qui ont décidé de s'investir dans cette opération. Il y a Jacqueline Intigna, directeur général du grand groupe, du grand cabinet de conseil d'audit, KPMG. Avec nous également Philippe Devèvre, directeur du marché entreprise en France de la Société Générale. Un chef d'entreprise avec nous, Jean-Charles Deconinck, président de Generix Group, qui est un groupe coté en bourse, éditeur d'applications, de logiciels pour le commerce, avec notamment des clients comme Auchan, Carrefour, Cdiscount, DHL. Avec nous également Guillaume Delavalade, directeur exécutif entreprise de SFR Business, dont les clients vont des TPE au grand compte, en passant par les ETI. Puis un autre chef d'entreprise, Olivier Jalabert, président d'Amplitude, c'est une medtech, là aussi, coté en bourse, Amplitude Surgical, spécialiste des technologies spécialisées, destinées à l'orthopédie pour le genou et la hanche. Il est venu de Valence, dans la Drôme. Alors tiens, les deux patrons que vous êtes, les deux patrons d'ETI, justement, Olivier Jalabert, c'est une opération comme plus grand, plus fort. C'est utile, c'est quasiment d'intérêt général cette histoire.
Effectivement, surtout que moi j'ai créé l'entreprise, je fais partie de ces rares chefs d'entreprise qui l'a créé il y a maintenant 20 ans, 2 personnes, et puis aujourd'hui on a un peu plus de 400 avec la dernière acquisition que nous venons de faire. On se développe beaucoup à l'international. Effectivement, donner des conseils aussi à ceux qui grossissent, c'est important. Nous on a eu la chance de bien se développer et on se développe beaucoup, et une opération comme celle-ci effectivement est certainement pleine de conseils pour tout le monde.
Jean-Charles Deconinck.
Développer des entreprises, vous l'avez dit, c'est d'intérêt général. C'est créateur de valeur.
C'est le chaînon manquant, je le disais, à l'économie française.
C'est clairement un des chaînons manquants que nous avons aujourd'hui, d'avoir de très grandes entreprises au niveau international. On parle souvent de nos entreprises du CAC 40. Nous parlons souvent aussi de ces start-up qui sont en train d'aujourd'hui d'innover, continuer à innover, c'est excessivement important. Mais nos entreprises sont aujourd'hui des entreprises qui sont un peu mal connues ou moins connues, où elles sont créatrices d'emplois, elles sont parties à l'international.
Pourquoi elles sont mal connues? C'est-à-dire, hormis vos clients, hormis votre entourage, hormis vos banquiers, quelque part, finalement, une boîte comme la vôtre, Generix. Spontanément, on ne la connaît pas.
Spontanément,
c'est la faute à qui? Pourquoi?
Parce que je pense
qu'on n'est pas fiers de nos entreprises. En
on n'est pas assez fiers peut-être de nos entreprises, parce que tout simplement on a une vision très grandes entreprises. Ouais. Notre CAC 40, il est très médiatisé, c'est très bien, puisque ce sont de très très belles entreprises. Mmh. On a beaucoup médiatisé les startups et c'est une très bonne chose parce que c'est créateur d'innovation aussi. Mais nos entreprises qui sont créateurs d'emplois, qui partent à l'international, qui se développent fortement, on oublie un peu que c'est ce modèle-là qui aujourd'hui est créateur de valeur et créateur aussi d'emplois aujourd'hui en France en particulier.
Jacqueline Intigna, à la tête de KPMG, pourquoi vous êtes venu ce soir? Pourquoi vous êtes associé à cette opération?
En fait, nous sommes tout à fait partie prenante de cette obligation, finalement, d'aider les entreprises à grandir, parce que ce sont nos clients. Ce sont les entreprises avec lesquelles on travaille. On a probablement plus de 40% des ETI qui sont clientes du cabinet. Tous les jours, on est au contact avec elles. Et finalement, on ne peut que constater de superbes réussites, mais aussi un certain nombre de contraintes, de difficultés sur lesquelles, probablement, on échangera quelques propos.
Oui, Philippe Devrenne, la Société Générale, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Ça fait des années et des années qu'on dit il faut que les entreprises grossissent, ce leitmotiv. Et puis finalement, on est toujours au même endroit.
Je crois que particulièrement en ce moment, il y a quand même une certaine incertitude au niveau politique, hein, d'abord à l'étranger, avec les élections en Grande-Bretagne, aux États-Unis. En France, on est quand même dans une zone d'incertitude. On ne sait pas quelle politique économique il va y avoir demain.
Mais ça, c'est 2016-2017. Mais oui. Quand je dis ça fait des années, on peut remonter il y a 20 ans encore.
Oui, hein. C'est vrai. Alors après, vous regardez notamment sur le plan fiscal. On a quand même eu moult volte-face sur le plan fiscal. Et pour des chefs d'entreprise, quand on s'engage sur 10, 15, 20 ans, on a besoin d'avoir une certaine lisibilité, une stabilité. Donc ça, c'est certainement des choses qui n'ont pas assez contribué au développement de nos entreprises.
C'est ça, le politique n'a rien compris depuis 30 ans. Il favorise le gros au détriment du petit, c'est ça?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais pas, c'est pas que le politique n'a rien compris. Le politique, par essence, a peut-être aussi une vision assez court-termiste, alors que des chefs d'entreprise, comme vous-même, vous avez une vision, une stratégie sur le long terme. Donc c'est peut-être là qu'il y a un décalage. Mais les politiques ne sont pas les seuls en cause, mais c'est peut-être aussi notre mode de fonctionnement. Bon. Par contre, je pense qu'en ce qui concerne les banques, nous, on s'inscrit vraiment dans un cadre de partenariat de long terme, et c'est ça qui nous intéresse. C'est tout l'intérêt pour nous de participer.
On va y revenir, parce que la question le souci du financement, justement, ça sera au cœur de cette opération. Plus grand, plus fort. Guillaume de la Valade, vous aussi, le troisième partenaire SFR Business.
Écoutez, nous, on est ravis de travailler avec toutes les ETI en France parce que c'est, comme vous le disiez, les entreprises les plus dynamiques. On a dit internationales, elles se développent à l'international, elles sont face à des concurrents qui jouent avec des armes digitales à l'international. Et ben, nous, modestement, on leur apporte, dans cette belle ruée vers l'or, des pelles, des pioches, de la fibre optique, de la 4G, pour se batailler avec tous leurs concurrents, que ce soit dans le domaine du logiciel ou que ce soit dans tous les domaines d'entreprises innovantes.
La question de la taille quand même. Tiens, si je vous demande à l'un et l'autre, vous, les deux chefs d'entreprise que vous êtes, hein, patron d'ETI, Generis Group et puis Amplitude, quelle épithète pour qualifier la taille de votre boîte? Petite, moyenne, grosse? C'est quoi quand on vous demande là comme ça?
Quand on me demande aujourd'hui, c'est une ETI.
Oui, mais bon.
Mais ETI, c'est effectivement une entreprise intermédiaire. Alors, on a dépassé le cap de l'amorçage, où là, je ne parlerai même pas de se faire connaître, puisqu'on est surtout, on essaye d'exister. Maintenant,
le chiffre d'affaires et le nombre de salariés, par exemple,
Amplitude, c'est 400 salariés. Ouais. On est un peu plus de 80 millions d'euros cette année, en forte croissance, puisqu'on fait 20% par an. Donc, je dirais, les salariés ont l'habitude de cette croissance. Donc, c'est pas un problème. On sait gérer la croissance. Maintenant, pour arriver à une grande entreprise, plusieurs milliers de salariés, on n'y est pas encore. On espère bien y arriver un jour. Mais pour nous, c'est quand même un objectif assez lointain. On est assez différent de ces entreprises, même si aujourd'hui, nous travaillons dans le même environnement. Nos principaux concurrents sont de grosses entreprises, et notamment américaines. On est mondialisé. Aujourd'hui, Amplitude a beau être le plus gros fabricant français, on est microscopique sur la planète par rapport aux géants américains. Néanmoins, on se bagarre.
Et 64% du chiffre d'affaires pour vous, c'est en France. Le reste, c'est à l'étranger.
C'est à l'étranger, au travers.
Qu'est-ce qui vous manque, là, si on vous disait, tiens, voilà, il y a des clés, choisissez-en une pour aller devenir une grosse entreprise. C'est quoi?
Dans notre domaine, il faut constituer des réseaux. Monter des réseaux à l'international, ça prend du temps. On est dans 36 pays, on en ouvre souvent des nouveaux pays, mais les aides, il faut qu'on les on compte sur nous-mêmes principalement. C'est vrai qu'on est dans un environnement mondial, la concurrence est souvent plus aidée que nous en matière de fiscalité notamment. Faut savoir qu'on est tous, on n'est pas tous à la même enseigne alors qu'on est sur le même marché. Si je d'un point de vue purement normal, j'aurais tendance à installer mon entreprise à l'étranger puisque j'aurais peut-être moins de taxes ou plus d'aides à me développer à l'international. J'ai pas fait ce choix-là. Amplitude est français, on le restera. C'est un petit peu plus dur. Néanmoins, on est fiers de notre industrie française.
Générique, c'est une grosse, une moyenne ou une petite entreprise?
On est une moyenne entreprise. 450 personnes de par le monde aujourd'hui. Un peu plus du tiers à l'étranger.
Russie, Brésil, Italie, Espagne, Portugal, etc.
Une acquisition récente en
Canada.
Amérique. Absolument, oui. 39 pays aujourd'hui couverts. Il y a 10 ans, nous étions, notre international, comme je dis souvent, était limité à Lille, Roubaix, Tourcoing. Voilà, aujourd'hui, c'est 39 pays, on se développe. Alors pourquoi cette dynamique? Parce que je pense qu'une entreprise de notre taille, aujourd'hui, elle a un marché qu'elle est en train de conquérir, un marché qui est aujourd'hui un marché mondial. La France a peut-être une vision assez agréable de la France. Et c'est vrai que notre pays est très agréable sur sous beaucoup de points, mais la compétition, elle n'est pas française, la compétition, elle est mondiale, comme le disait mon collègue aujourd'hui. On est confronté avec des compétiteurs excessivement aguerris, avec des problématiques de compétitivité qui sont réelles. Il faut le dire très clairement aujourd'hui. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la problématique de la fiscalité, etc. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement un environnement stable pour pouvoir développer. Parce que c'est vrai que nous travaillons sur du long terme, ouais, et non pas sur du court. Et à long terme, ça nécessite une stabilité de l'environnement pour pouvoir se développer correctement.
Oui, et on verra tout à l'heure, quand on parlera de la carte internationale, que pour être plus grand, plus fort, il faut en effet se projeter au-delà des frontières, déjà l'Europe, et après, mais à condition là encore d'avoir les bonnes recettes, les bonnes clés. Jacqueline Intignat, directeur général de KPMG, on parle d'entreprises à faire grossir. Elles sont grosses comment en ce moment, nos entreprises? Alors qu'on se rende bien compte, parce que là on est en train de dire elles sont pas assez grosses, elles sont pas assez à l'échelle du monde, etc. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On se compare par rapport à qui? Par rapport à ces fameuses entreprises allemandes du Mittelstand, ces ETI allemandes qui sont trois fois plus que les nôtres?
Oui, en fait, on peut déjà dresser un tableau un peu général sur un peu plus de 2 millions d'entreprises en France. L'essentiel, c'est des TPE. Si on regarde les PME, jusqu'à 50 salariés, on va en avoir 140 à 150 000. Et des ETI, les ETI sont les entreprises qui sont entre les PME, les grands groupes, entre 250 et 5 000 salariés. C'est énorme comme champ.
Comme marche, ouais.
Ben on en a moins de 5000. Et quand on regarde celles qui ont plus de 1000 salariés, c'est moins de 1000.
Alors, c'est 5000 en ETI, un petit peu moins. Hein.
Oui.
C'est 0,1% des entreprises, oui, à peu près, en France, qui contribuent quand même pour quasiment 40% du PIB français.
Oui, et plus de 3 millions d'emplois. Si vous faisiez la comparaison avec l'Allemagne, l'Allemagne, c'est le Mittelstand. Le Mittelstand, c'est 12 000 entreprises, là où on en a 4 700, 4 800. Les Britanniques, c'est 10 000. Les Italiens, c'est 6 000 ou 7 000. Si on avait un nombre d'ETI proportionnel au même rapport par rapport au PIB, on aurait évidemment le double d'ETI. Et ça règle le chômage. Alors évidemment, cette règle de 3, elle est un peu rapide, mais c'est 3 millions d'emplois de moins dans ce secteur par rapport aux pays qui nous environnent.
C'est le modèle vers lequel on doit tendre, le modèle allemand, le fameux Mittelstand, Philippe Deveuve de la Société Générale, Guillaume de Lavalade de SFR Business,
puisque vous avez
regardé ce qui se passe ailleurs.
Oui, bah c'est vrai qu'on regarde l'exemple allemand sur bien des plans, hein, le plan aussi de la croissance économique.
Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus, les Allemands, pour arriver à un tel niveau?
Les Allemands, en fait, bah, y a toute une histoire qui est différente. C'est pour ça que je pense que la comparaison, il faut pas la pousser trop loin. Il y a toute une histoire de culture industrielle en Allemagne, hein, qui est beaucoup plus forte que chez nous.
Régionale
moi,
aussi.
On voit des entreprises comme celle d'Olivier ou de Jean-Charles, qui en 11 ans, en 20 ans, sont passés quasiment de 0 à 200 millions, à 70 millions, etc. Bon, on voit que dès qu'on se tourne à l'international, c'est un accélérateur. Et l'autre accélérateur dont on pourra parler, et là, peut-être que l'Allemagne a plus favorisé les choses par le passé, c'est celui de la croissance externe. Dès qu'on donne une possibilité d'accompagnement et qu'on ne voit pas celui qui va acquérir une autre entreprise comme un espèce de fauve qui va se jeter sur sa proie, mais au contraire quelqu'un qui va arriver pour permettre le développement, à ce moment-là, on peut aussi faciliter et accélérer le développement.
Guillaume de Lavalade, SFR Business.
Je crois que sans refaire le match avec le patrimoine industriel de l'Allemagne et c'est cette longue histoire, clairement on est à un tournant en termes de technologie, d'innovation, de capacité pour pas mal d'entreprises à projeter leurs forces à l'international, et on l'a bien compris, hein, le nombre de fois on a prononcé international dans cette émission.
Et l'émission ne fait que commencer.
Voilà. Et du coup, la qualité des ingénieurs français, mais aussi la technologie qui permet de projeter ses forces, comme je le disais, et jouer de l'effet de levier, hein, une fois que vous avez inventé un process, un produit, un design, avec la technologie, avec du data center, avec de la fibre optique ou autre, vous pouvez le projeter n'importe où dans le monde. Et après, il faut des réseaux commerciaux, comme le disait mon voisin, bien évidemment. Mais en tout cas, le savoir-faire maintenant, peut être disponible partout en France et dans le monde.
Olivier, les deux voisins, Olivier Jalabert, Amplitude, et Jean-Charles Deconinck, Générix. Allez-y, Olivier Jalabert.
Effectivement, il faut avoir des forces pour aller se bagarrer sur l'international. Nous, nos deux forces, c'est l'innovation. Je pense que sans innovation, il n'y a pas d'international. Déjà que c'est compliqué. Si en plus, on n'a rien à faire valoir, ça va devenir difficile. Donc nous, on investit massivement, puisque 9,5% de notre chiffre d'affaires est investi en recherche et développement. Ça nous permet d'avoir de vrais arguments concurrentiels par rapport même aux mastodontes américains. Et ainsi, on peut aller à l'international. Mais aller à l'international comme ça, sans argument majeur, c'est difficile. Deuxième élément, il faut des finances. Mais je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard.
Bien sûr, Jean-Charles Deconinck.
J'ai une chose à dire là-dessus, c'est que la France est un énorme pays d'innovation. On l'oublie souvent. Nous investissons fortement dans la formation, entre autres, de nos écoles d'ingénieurs, qui sont de très, très bonne qualité, je le rappelle, pour avoir vécu dans d'autres régions du monde. C'est une raison aussi pour laquelle j'ai aussi revenu créer ici en France, parce que notre qualité d'ingénieur et la qualité de l'innovation française est exceptionnelle. Faut pas oublier non plus, on parle souvent de la Silicon Valley dans nos métiers. Silicon Valley, elle est quand même, on va dire, provider avec de nombreux ingénieurs français. Faut pas l'oublier non plus. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on investit sur la formation. On investit lourdement dans nos écoles, dans nos universités. Et quelque part, on voit derrière, nos jeunes ingénieurs, nos jeunes créatifs partir ailleurs. Et la bonne question, c'est de se poser cette raison-là, parce que des innovations en Allemagne, il y en a aussi, des ingénieurs en Allemagne, il y en a aussi, mais quelque part, il y a une réalité complètement différente de stabilité d'un environnement économique. Et la deuxième chose, il y a un mode de fonctionnement inter-entreprise qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître en France.
C'est vrai, les responsables, vous nous avez dit tout à l'heure, Philippe Deveuve, il ne faut pas tout de suite tacler le politique, bien sûr, même s'il a sa responsabilité avec cet environnement fiscal, réglementaire qui ne cesse de changer. On verra comment monter en puissance, comment peut-être redonner un petit peu plus de financement, comment innover davantage. Est-ce que c'est la faute aux autres quand même toujours? Jacqueline Intigny, est-ce que les chefs d'entreprise acceptent toujours de prendre des risques?
Non, en fait, je crois qu'il faut dire les choses. Pour être tout à fait crédible, il faut dire les choses comme elles se présentent. C'est-à-dire qu'on ne grandit pas du tout de façon automatique, uniquement étant porté par un marché. On grandit parce qu'on décide de grandir, parce qu'un dirigeant, parce qu'une entreprise a un projet. À défaut de ce projet, bien évidemment, il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas de compétition véritablement, et les entreprises resteront souvent dans des positions de sous-traitants. Donc déjà, il faut, pour grandir, il faut une volonté de faire. Ensuite, je suppose que c'est le cas ici, vous avez pris des risques. Là, on est encore du côté de l'entrepreneur. Grandir, c'est prendre des risques parce que c'est investir. Et quand on investit, on n'a pas forcément la fin du film quand on lance l'investissement.
Olivier Jalabert.
Tout à fait, vous êtes obligé de prendre des risques, parce que si vous regardez le tableau Excel, vous n'investissez pas à l'international. Pour aller à l'international, il faut un petit peu d'inconscience, un bon business plan, mais c'est sûr que c'est miser beaucoup d'argent, sachant que quand on fait 10 euros de marge à l'international ou qu'on les fasse en France, au final, on est taxé de la même manière. Et je dirais, les efforts pour aller conquérir des marchés à l'international sont nettement plus élevés que d'aller faire des affaires en France. Donc voilà, il faut oser, effectivement, il faut avoir envie, il faut avoir faim. Et puis, avec tout ça, on y arrive généralement.
Et vous, chez Generis, comment vous avez osé, comment vous avez témoigné votre appétit, Jean-Charles Deconinck?
Generis, c'est une entreprise d'entrepreneurs. Tous les employés sont des entrepreneurs. Venir chez nous travailler, c'est être un élément de la mécanique d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Non, ça, c'est une chose qui est essentielle, c'est que je trouve qu'en France, on a beaucoup d'entrepreneurs. Je trouve que je vois beaucoup de jeunes ingénieurs chez nous que nous recrutons actuellement, qui ont envie d'entreprendre, de démarrer autre. La réalité, c'est que derrière de cette entreprise, de cette volonté, il faut véritablement lancer la mécanique. L'autre point, c'est que être entrepreneur, c'est aimer le risque. C'est savoir jouer, c'est prendre des risques, certes mesurés, mais qui dit risque dit aussi potentiellement opportunité. Et c'est l'opportunité qui nous intéresse aussi. Et de pouvoir développer l'entreprise. Ce qui nous fait marcher, nous, c'est de créer, c'est de développer, c'est de faire grossir. C'est ça notre moteur, c'est de créer de l'emploi. C'est rien d'autre, en fait. C'est une très belle aventure humaine que celle d'entreprendre. Et c'est celle-là qu'il faut garder.
Alors, l'audace et la notion de grandir, justement. Parce que la question, elle se pose aussi dans le financement, bien entendu. Alors oui, il y a la BPI, oui, il y a des généreux business angels, très bien, mais la notion d'oser, est-ce que les banques, elles osent toujours. Vous, Société Générale, qu'est-ce que vous faites pour financer les aventures, aider des jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes, peu importe, à démarrer, à grandir? Philippe Devèvre.
Alors nous, déjà, on est une banque qui a été créée par des entrepreneurs. Hein, en 1864, la Société Générale, par la famille Schneider, ça date un peu, mais
ça a changé.
Ça a 150 ans, ça a changé. Mais on est quand même, on reste très admiratif, en tout cas à titre personnel, et c'est partagé par beaucoup de mes collègues, de cet esprit d'entreprise, de prise de risque des chefs d'entreprise. Alors comment on peut l'accompagner? Je pense qu'on a une responsabilité qui est pas seulement de répondre aux demandes qui nous sont faites d'accompagner sur des financements, sur des développements, mais d'être plus en amont dans le dialogue avec le chef d'entreprise, dans un discours un peu stratégique. Et moi, il m'est arrivé, dans certaines circonstances, même d'aller voir un chef d'entreprise pour lui susurrer à l'oreille l'idée de se développer dans tel pays, d'aller conquérir tel marché, parce qu'on avait des informations en interne sur la banque et qu'on savait qu'on pouvait l'accompagner, qu'il était suffisamment bien structuré, etc. Donc, vous voyez, je pense qu'on a aussi une responsabilité déjà d'être en amont. Ensuite, aujourd'hui, le crédit n'a jamais été aussi peu cher. Donc, il y a des capacités d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur développement qu'on n'aura peut-être plus dans 5 ou 10 ans. Donc, il y a une fenêtre de tir
qui est
exceptionnelle.
Les entreprises peuvent en profiter en ce moment, justement, de ce crédit peu cher. Est-ce que vous vous montrez généreux?
Bah, exactement. Enfin, écoutez, sur des entreprises qui ont des projets solides, aujourd'hui, on peut emprunter à 5-7 ans à moins de 1% aujourd'hui en France.
Voilà. Est-ce que vous faites, Olivier Jolabert, des critiques ou des louanges vis-à-vis des banques?
Je fais plutôt des critiques. Effectivement, je pense que... Alors, certains critiqueront les banques en disant que les banques ne veulent pas prêter, etc. Moi, je m'oppose un petit peu à ça, puisque j'en ai bien bénéficié. Je pense que quand on a une équipe sérieuse de collaborateurs, un vrai projet, un vrai partenaire bancaire avec qui on collabore au quotidien... Eh bien, quand il faut être bien conseillé, on l'est, je pense. Quand il faut avoir de l'argent, le banquier est à même de nous le prêter. Il faut bien l'expliquer. Il ne prête pas à tout le monde, mais je crois que heureusement qu'il ne prête pas à tout le monde. Mais quand on veut des financements, je pense qu'on peut les trouver en France. Alors, c'est vrai que quand on est aux États-Unis, on peut démultiplier un petit peu les enveloppes qu'on peut lever. Mais je pense qu'en France, non, vraiment, on peut être bien aidé également.
Jacqueline Intignat de KPMG, est-ce qu'il y a assez de financement pour les entreprises, pour naître, pour grossir? On a parlé du travail des banques, bon, avec votre voisin de la Société Générale, on a parlé de la BPI, de Business Angel. Tiens, est-ce qu'il y a assez d'investisseurs, justement? Est-ce qu'il y a assez de capital? Parce qu'on voit le capital risque mondial, 10% est en Europe, 25% en Chine, 60% aux États-Unis, justement. Il y a la pression fiscale confiscatoire, justement, fiscalité de la détention, de la transmission des entreprises. Qu'est-ce qui manque exactement? Sur quoi il faut travailler en 2017?
En fait, il faut travailler sur tout à la fois. Je pense qu'il faut être dans une logique dans laquelle on comprend qu'on est dans un écosystème. Il y a l'État, bien sûr, il y a les banques, il y a les fonds d'investissement, il y a la bourse, il y a beaucoup d'éléments qui sont interdépendants. Je dirais même, on n'en a pas parlé, mais il y a le problème des talents, le problème des équipes. Il faut des gens formés, vous avez parlé des ingénieurs, mais... des techniciens, il faut des gens qui acceptent de vivre à Valence ou je sais pas où. Et il faut un système éducatif qui forme des personnes qui soient... moi, quand je discute avec les chefs d'entreprise, souvent, ils émettent un certain nombre de remarques. Si on revient sur le capital lui-même, oui, est-ce qu'il y a assez d'argent? Ouais. En fait, je pense que la question, elle doit plutôt être posée par rapport au projet... Et notamment à quelque chose qui est le taux d'endettement. Je connais un grand nombre de chefs d'entreprise qui disent « Non, je ne peux pas investir. J'ai déjà un taux d'endettement maximum. Hein, j'ai 50% de mes ressources long terme, en emprunt long terme. Je vais calmer, je vais attendre. » Là, en l'occurrence, peut-être que le crédit n'est pas la réponse. Et des chefs d'entreprise doivent aussi se poser la question de savoir est-ce que l'ouverture du capital n'est pas un élément. Donc en fin de compte, si vous êtes un chef d'entreprise qui pense que la seule façon de financer son développement, c'est le crédit moyen et long terme, et qu'il a atteint son taux d'endettement, eh bien il faut qu'il attende de refaire du cash flow pour pouvoir réinvestir.
Donc finalement, c'est en panne ensuite.
C'est en panne. Donc je pense que la question, elle est de tout mettre sur la table et de regarder l'écosystème du financement. On a deux belles entreprises qui sont en bourse. On a aussi probablement une plus grande capacité à ouvrir que dans la plupart des PME françaises.
Ouais, mais la bourse aussi, qui a perdu plus de la moitié en presque 10 ans de ses actionnaires.
Pas chez les ETI.
Jean-Charles de Conin, qui est président de Generisgo. Et puis on se retrouve dans un instant, on parlera d'innovation aussi.
Je pense aussi qu'en termes de financement, financer les grands groupes ou financer des entreprises moyennes, c'est autre chose. Aujourd'hui, à un moment donné, on a besoin d'un niveau d'investissement beaucoup plus important que lorsque nous étions PME ou start-up. Nous ne sommes pas encore des grands groupes. Et il est très difficile, et je peux le comprendre, pour des problématiques de ratio, pour des problématiques de passer pour nos banquiers aujourd'hui à des niveaux d'investissement beaucoup plus importants dans nos entreprises ou de taux d'endettement. Ça, c'est une problématique qu'on peut rencontrer ici en France, qu'on rencontre moins difficilement de l'autre côté de la grande mare qui est l'Atlantique.
Plus grand, plus fort, c'est l'opération de BFM Business pour faire grossir les entreprises. Alors êtes-vous prêt à relever le défi? On retrouvera les décodeurs de l'écho dans un instant. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Une opération bien sympathique qu'a lancé BFM Business ce matin. Plus grand, plus fort. Comment faire grossir nos entreprises françaises? Pas assez grosses, hein, justement, pour compte tenu de tous les défis, notamment à l'international. Et pendant presque 4 mois, on va essayer d'apporter les recettes, les réponses à cette question. Tiens, justement, la question du financement, je reviens avec vous, Philippe Devèvre, vous qui êtes directeur du marché entreprise en France de la Société Générale. Vous nous disiez, compte tenu eh bien, des taux bas, c'est le moment maintenant d'investir, les entreprises vont davantage profiter du crédit qui était peut-être allé quelque part bloqué, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs.
Il y a quelques années que ça s'est bien débloqué, sous l'action notamment de la Banque Centrale Européenne. Mais je crois qu'aujourd'hui, toutes les banques françaises ne demanderaient pas mieux que d'avoir plus de projets à soutenir et à accompagner. Mais la dette par le crédit, le crédit n'est pas l'alpha et l'oméga du financement, du développement des entreprises. Et une des responsabilités des banques, c'est aussi d'orienter les dirigeants vers d'autres solutions. Par exemple, pour les ETI, vous avez 70% de financement qui se fait par du crédit et 30% par des émissions obligataires, par exemple. Et comme l'a dit très bien Jackie, il y a également...
Jackie Lintignat, de KPMG.
Ouais, fait, de KPMG. Vous pouvez également... Enfin, on a un devoir aussi, à un moment donné, du développement d'entreprise, d'orienter nos clients vers des solutions en capital. Et ça nous arrive aussi à la Société Générale de prendre des participations au capital d'ETI.
Jacqueline Intignia, les dirigeants de PME, d'ETI, est-ce qu'ils ne sont pas trop axés quand même sur leur gestion à court terme, voilà, en regardant le niveau de la trésorerie et partant de là finalement quelque part, tout ce qui est transformation numérique, recherche-développement international, est-ce que parfois ils ne le mettent pas de côté justement pour se concentrer vraiment sur allez, comment je vais remplir mon compte hein?
Non, je crois que l'ETI, c'est une PME qui a grandi déjà. Donc, quelque part, il y a eu dans l'histoire de cette entreprise un projet de développement. Et ce projet de développement, il n'est jamais à court terme. Il est toujours à moyen terme. Après, c'est la question de la vitesse, le rythme. Est-ce qu'on essaie d'aller vite vers une cible, je ne sais pas, 2000 salariés, de présence dans 20 pays et dans ce cas-là, eh bien, quelquefois, on va plus vite que les ressources, les moyens dont on dispose. Et d'autres fois, eh bien, on a des chefs d'entreprise qui préfèrent, parce que l'entreprise est familiale, limiter un peu les risques pour préparer une transmission. Je crois que on a défini les ETI.
La transmission, quand elle n'est pas non plus, comment dire, pénalisée fiscalement aussi. Hein.
Oui, bien sûr, ouais. C'est un élément important. C'est sur cet aspect, la fiscalité française, malgré toutes les rustines qui ont pu être mises en œuvre, hein, avec les différents dispositifs, ont permis de limiter les dégâts, mais on a toujours un certain nombre d'obstacles par rapport à ça. Mais je dirais que les ETI ne se définissent pas uniquement par les critères de taille, de chiffre d'affaires, etc., mais aussi par des projets qui sont véritablement des projets qui nécessitent du moyen terme et du long terme. Les ETI sont toujours dans une logique et une logique de projection.
Alors, une entreprise aussi, pour grossir, elle doit pouvoir aussi, quelque part, moderniser son outil de production. Il faut évidemment penser à tout ce qui est mobilité, sécurité informatique, au cloud. C'est là où vous intervenez, notamment, vous, Guillaume de Lavalade, le directeur exécutif entreprise de SFR Business. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter à ces entreprises pour aller monter la marche ?
Alors, déjà de la facilité. De la facilité parce que, comme on l'a déjà mentionné, ces entreprises ont eu souvent un très beau parcours avec une belle croissance. La technologie, l'innovation, c'est pas forcément, en tout cas sur la partie télécom, fibre, mobilité, nouvelles technologies, c'est pas forcément là leur fort. Et donc nous, notre simple rôle déjà, c'est de conseiller, de montrer, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes en concurrence avec des entreprises américaines, allemandes, qui ont déjà incorporé pas mal de technologies. Donc il faut aussi que vous vous incorporiez. Donc
parfois c'est difficile à les convaincre. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment la priorité numéro un des managers que de parler de transformation numérique, de cloud, de mobilité, franchement?
En fait, la réponse que j'ai le plus souvent, c'est, vous savez, j'y comprends pas grand chose, je veux juste que ça marche. Ouais. Et le juste que ça marche, pour de la fibre, pour de la mobilité, pour du cloud, je pense que tout est dit là-dedans. Donc déjà, on doit avoir ce premier rôle de simplicité et de fiabilité. Après, c'était assez intéressant sur Las Vegas et le CES qui s'est terminé hier soir. On en a fait des tonnes, si vous me passez l'expression, sur les startups et sur la French Tech. C'est très bien, c'est parfait. Montrer le savoir-faire des ingénieurs français, mais pour ceux qui sont allés de nombreuses années au CIS, ça devrait être là qu'on devrait voir les ETI. Ce sont déjà des entreprises de très belle taille. C'est ces entreprises qui doivent avoir accès à tous les marchés internationaux.
Et pourquoi n'y sont-elles pas? Pourquoi il n'y a que les
startups? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Certaines y sont, mais je souhaiterais qu'on en fasse aussi des tonnes. Pour reprendre aussi cette expression
facile. Un produit médiatique cette fois.
Exactement, sur toutes ces entreprises. Pour vous donner juste un petit exemple d'une entreprise d'électronique fort célèbre, coréenne. Au début des années 2000, en sortant de la crise asiatique...
Bon, c'est LG.
Samsung ou LG, oui, peu importe. Elles étaient vraiment plus bas que terre, passé cette crise asiatique de 98. Et pendant toutes les années 2000 jusqu'à maintenant, on a vu cette montée en puissance de géants. Samsung aujourd'hui est présent dans les composants, dans les écrans, dans toute notre électronique, et on a vraiment, ça a été une trajectoire mais fulgurante. Et moi, c'est tout ce que je souhaite pour toutes les ETI françaises, de trajectoire aussi fulgurante pour Generix et pour d'autres.
Alors Generix, qui est un groupe coté en bourse, on le rappelle, éditeur d'applications, de logiciels pour le commerce. Expliquez-nous quel a été l'apport du numérique justement pour votre développement, pour passer les différentes étapes, pour grossir.
Le numérique, pour nous, c'est quelque chose qui est la base même de notre métier. Nous faisons du numérique.
Déjà.
Nous, notre métier, c'est véritablement d'accompagner nos clients du monde du commerce et de l'industrie dans leur transformation numérique, voire dans leur accélération, pour certains. Et on parlait tout à l'heure du numérique. Et quand on parle du numérique, on parle des clients, parce que notre monde est aujourd'hui numérique. Et c'est ça qu'on oublie. C'est qu'on est en train de vivre une opportunité exceptionnelle. Et pour nous, entreprise française, c'est une exception aussi qu'il faut pouvoir saisir. Cette opportunité, elle est là, elle est dans nos mains. On a la capacité dans ce pays de pouvoir la transformer. Il ne faut plus voir l'entreprise ou l'industrie comme on la voyait hier. On n'est plus dans une entreprise manufacturière. Nous ne sommes plus dans une société d'acquisition. Nous sommes dans une société qui est en train de se transformer vers une société d'usage. Et donc, c'est une forte potentialité pour nous tous à développer. Et nous, entreprise Generix, entreprise dans le monde du numérique, dans le monde des flux d'informations, des flux d'exécution physique et logistique, c'est une opportunité excessivement importante aujourd'hui qui nous permet justement de conquérir des positions à l'international. C'est une opportunité pour toutes les entreprises françaises.
Olivier Jalabert, Amplitude, c'est une medtech, donc spécialisée dans l'orthopédie du genou, de la hanche, installée à Valence. Le numérique, le digital, vous a permis de grimper plus rapidement?
Effectivement, mais nous, c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, le chirurgien, il fait un acte chirurgical, c'est ses deux mains, et qu'il utilise pour mettre un implant dans le corps humain. Nous, la digitalisation... elle a surtout concerné les instrumentations. Pour poser une prothèse, avant, eh bien, le chirurgien utilisait ses yeux et puis il implantait l'implant. Aujourd'hui, et grâce à Amplitude, on a développé des navigateurs chirurgicaux assistés donc par une caméra infrarouge. Le chirurgien peut visualiser en image de synthèse le bon positionnement de son implant, et c'est ce qu'Amplitude a mis au point, et c'est ce qui a fait qu'Amplitude aujourd'hui est devenu international et a fait la différence avec les autres compétiteurs internationaux.
Guillaume de la Vallade, de CFR Business.
Si vous me permettez de rebondir, il se trouve que je rencontrais le directeur des systèmes d'information de l'APHP, donc de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et
le champ des possibles pour les chirurgiens de demain est juste mais énorme. Vous savez que un chirurgien, alors je suis loin d'être médecin, donc prenez mes paroles avec précaution, mais un des critères, c'est le nombre d'opérations qu'il est capable de faire. C'est là le meilleur spécialiste sera celui qui sera le plus rompu à ça. Et donc de ce fait,
et de bien les faire aussi, hein.
Bien évidemment, bon. Un des critères. Et donc, de ce fait, chacun en France va vouloir avoir le meilleur chirurgien. Et c'est là où la technologie peut apporter, mais énormément, puisque sur un écran à distance, et donc vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes de connexion, il faut des débits très importants pour transmettre des images d'une grande précision. Il faut aussi des temps de réponse extrêmement courts pour que, quand le chirurgien à distance actionne son joystick, ça permette de faire l'opération. Une fiabilité, bien sûr. Et après, il faut des chirurgiens plutôt quarantenaires qui ont joué à la station à la PlayStation, j'allais dire, oui. Et qui savent regarder un écran et un joystick séparément.
Jacqueline Attignal, et les entreprises qui ont réussi leur transformation numérique, qui ont cru au digital, au cloud, à l'intelligence artificielle, enfin tout ce qui est possible, hein, toute la panoplie, elles sont plus performantes que les autres, elles accélèrent plus vite.
Elles vont visiblement plus vite, bien évidemment. Elles sont dans le monde réel, parce que le monde réel, il est, vous l'avez dit, il est numérique. Mmh. Donc, de toute façon, elles ne sont pas dans des approches qui seraient des approches trop traditionnelles. Bien évidemment, elles peuvent aller beaucoup plus vite. Parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter serveur par serveur, les installer, d'avoir des équipes, vous êtes sur le cloud. Après, elle commence à avoir des préoccupations de cybersécurité. Je crois qu'il ne faut pas le négliger. Et c'est un autre défi qui s'ouvre devant elle.
Et à condition que tout le monde soit sensibilisé, hein, bien entendu, et toutes les entreprises, quelle que soit la taille, la TPE, la PME, l'ETI, le grand groupe, il doit être sensibilisé à ça. On avance, parce que là, je voudrais qu'on parle absolument de l'international. Philippe Devèvre, hein, de la Société Générale. C'est vrai, il y a de la rentabilité, et vous en êtes témoin l'un et l'autre, hein, Amplitude et Générique, ça, justement. Comment on réussit un développement à l'international? Qu'est-ce qui manque à une entreprise, justement, pour grossir? Est-ce qu'elle arrive à se projeter à l'international? C'est quoi qui manque? C'est du conseil? C'est connaître les langues? Connaître le marché? Exactement, c'est quoi?
La première embûche, c'est d'abord de se faire une espèce d'audit interne et de regarder, est-ce que l'entreprise, avant de se tourner vers le marché, est-ce que je suis structuré, mon entreprise qui a progressé, qui s'est développée, est-ce qu'elle est suffisamment structurée en interne? Est-ce que mon directeur financier, qui était peut-être très bien quand je faisais 5, 10, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, est-ce que quand il fait 50, on est à 50, 70, 100 millions, est-ce que le même homme est toujours capable de suivre? C'est un sujet qui est assez sensible à aborder et pourtant, il faut le regarder en face. Donc d'abord, voilà, est-ce qu'on est structuré, est-ce qu'on a service export, etc. Donc il y a d'abord regarder notre capacité à le faire. Ensuite,
la question du recrutement aussi, hein, du talent aussi à l'international.
Hein. Mais oser, vous voyez, c'est sur le plan humain, remettre en cause ce qui a fait pourtant une histoire réussie jusque-là. C'est pas forcément facile, mais c'est indispensable. La deuxième chose, c'est qu'il faut y aller avec des partenaires. Et clairement, on a échangé tout à l'heure, on vous a accompagné dans les pays de l'Est. Il faut sur place effectivement des partenaires qui soient capables de vous aider à appréhender les marchés. Et la troisième option, qui est vraiment importante dans une banque, c'est de vous faciliter après le paiement, le règlement de votre exportation, le sécuriser, trouver le plus adapté pour vous permettre, après, non seulement d'avoir réussi le marché, mais évidemment de pouvoir le faire croître et d'en tirer les bénéfices.
Votre principal atout, quand vous avez percé le Brésil, la Russie, l'Espagne, l'Italie, etc., Jean-Charles de Coninck à la tête de Generix, hein.
Oser.
Oui,
là encore. Simplement oser.
Oui, mais enfin, c'est pas juste oser.
Non, mais oser avec surtout, on est dans une compétition, comme on le disait tout à l'heure, qui est mondiale. Donc, il faut avoir un différenciant par rapport à nos compétiteurs. On doit apporter un plus. Vous n'allez pas faire de la même chose que les autres. Vous apportez une valeur différente. Donc je pense que ce que vous disiez tout à fait, je suis d'accord avec vous, Philippe, c'est bien préparer cette internationalisation, préparer les structures, les hommes, les talents.
Est-ce qu'il y a une envie toujours?
Il y a une envie. Ouais. Il y a une envie parce que la France, c'est un tout petit pays.
Ouais. Le marché ne suffit
gaulois,
pas.
Gaulois, en plus. Donc parfois, on choisit plutôt des produits qui ne sont pas français parce que on est ouvert, par définition. Voilà. Ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays. C'est une particularité de la France, en tout cas. Et donc, il faut oser et pousser véritablement le bord des frontières. Ouais. Et c'est aussi une aventure humaine exceptionnelle.
Alors, plus grand, plus fort, hein, on va rentrer. Enfin, on est déjà un peu dans la campagne électorale. Il faudra en parler pendant la campagne des présidentielles. Qu'est-ce que vous auriez envie de suggérer comme idée? aux différents candidats. Parfois, c'est un peu creux, les programmes, franchement, en ce moment. C'est flou et c'est creux. Bon, je ne donnerai aucun exemple, bien entendu. Allez, allez-y, Olivier Jalabert, à la tête d'Amplitude, installé à Valence, dans la Drôme.
Effectivement, on aimerait bien que nos hommes politiques viennent nous voir un tout petit peu, parce qu'en fait, les choses qui nous paraissent évidentes, on a l'impression que nos politiques, ça leur paraît un petit peu loin de leurs préoccupations, alors on est prêt à les accueillir.
Oui, oui. Quelle idée à donner
Oh, je crois qu'on l'a évoqué tout de suite, déjà un peu de stabilité, la compréhension. Je pense
est-ce qu'ils vont comprendre un jour, oui ou non, qu'il faut de la stabilité?
Alors, il y a au moins une chose dont on n'a pas parlé et qui est stable depuis quelque temps, c'est le crédit impôt recherche qui a été sanctuarisé.
Bien sûr.
Dieu merci.
Oui.
Parce que finalement, ça démontre que quand on le veut, on peut tenir une décision. Même si cette décision est attaquée ici et là, pour le reste, je crois que malheureusement, on a un record et ce record de l'instabilité est un handicap parmi tous ceux qu'on peut avoir.
Combien de temps vous donnez, on va se donner pour créer des conditions encore plus favorables à la croissance des entreprises? On arrive quand au modèle allemand, justement? Philippe Deveve, Société Générale, Guillaume de la Vallade, SFR Business, allez-y Philippe Deveve.
Question difficile, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le but, c'est pas de rattraper le modèle allemand. On a plein de qualités en France, on a plein d'atouts. Moi, je rejoins exactement ce qu'on s'est dit au début de l'émission, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de la stabilité, une stabilité, puisque vous demandez une période sur 5 ans. Voilà. Si on avait déjà la capacité de se dire, pendant les 5 prochaines années, notre taux d'imposition, etc., ne va pas varier, les chefs d'entreprise, avec tous les atouts qu'on a en France, on peut déjà faire des choses formidables.
Guillaume de la Vallade.
Très benoîtement, je leur dirais de s'intéresser davantage aux technologies et de voir tout le potentiel qu'il peut y avoir. Parce que, comme le disait un de mes amis, aller expliquer le blockchain à un sénateur, c'est quelque chose qui est juste mission impossible. Et pourtant, c'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde dans lequel on vit.
Ah, il y avait un ancien président de la République qui ne connaissait même pas le Bon Coin l'an dernier. Voilà, on ne le citera pas, il est un peu disparu. D'autres le Mulot, oui, c'était il y a 20 ans, c'était l'un de ses prédécesseurs. Plus grand, plus fort, voilà, c'est l'opération qu'on lance sur BFM. J'espère que ça va pas être comme les Restos du Cœur lancés il y a 30 ans, opération malheureusement qu'on renouvelle chaque année, on colmate les fuites, la pauvreté elle est toujours là. Je crois pas que dans 30 ans, on se repose toujours les mêmes questions. Vous y croyez? Il y a de l'espoir quand même, Jacqueline Tignard?
Moi j'y crois beaucoup parce que je pense que les mentalités ont évolué.
Ouais.
Alors après, il y a certainement arrivé une espèce de consensus. Quelles sont les choses les plus importantes sur lesquelles il faut qu'on soit d'accord? Bien évidemment, les chefs d'entreprise, l'État, les banques, etc., toutes les personnes qui interviennent dans cet écosystème.
Jean-Charles de Coninck, tout n'est pas perdu, on y croit plus grand, plus fort.
Écoutez, ça dépend d'une chose, de deux choses en fait. Nous, entrepreneurs, on est là pour créer de l'emploi, on est là pour créer des entreprises. Notre job, c'est de créer et c'est de développer. Les politiques, et surtout la politique, n'est pas là pour créer des entreprises ou gérer des entreprises. Elle est là pour créer un environnement.
Foutez-nous la paix, quoi.
Oui,
voilà, clairement.
Traînez-vous un environnement stable.
Effectivement, je pense qu'il y a un réseau d'entrepreneurs en France qui est formidable. Il y a de la technologie. Et a fortiori, dans mon métier, la chirurgie est reconnue mondialement. Je pense qu'il y a des ressources énormes. Effectivement, laissez-nous travailler.
À quel moment on pourra dire cette opération, elle est réussie, plus grand, plus fort? À quel moment? Ça sera quoi le signe, le déclic, Philippe Deveuve?
Quand on sera passé déjà à 10 000 ETI, on aura franchi un beau cap.
On est à 4600 actuellement. Voilà, merci à tous. Merci donc Jacqueline Tignard, directeur général de KPMG avec nous également. Philippe Deveuve, directeur du marché entreprise de la Société Générale. Un chef d'entreprise, Jean-Charles de Coninck, président de Generis Group. Avec nous également Guillaume de la Vallade, directeur exécutif entreprise de SFR Business. Et puis bon retour dans la Drôme à Valence. Olivier Jalabert à la tête d'Amplitude. En attendant, longue vie au hashtag PGPF, plus grand, plus fort, une opération qui va se poursuivre jusqu'à fin avril. Et vous retrouverez évidemment tous les lundis Stéphane Soumier dans Good Morning Business. Plus grand, plus fort, c'est l'opération qu'on a lancée et on en est fiers.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.